Il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur Europe 1. Dans un instant, nos débats de Punchline. Mais tout de suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Tom Cruise atterrit non pas en avion de chasse mais en hélicoptère au festival de Cannes. Il présente son film Top Gun Maverick, 36 ans après le premier.
Oui, Tom Cruise qui s'apprête à monter les marches. Juste avant, il donnait une masterclass à laquelle Marie Jiquel a eu la chance de participer. Chanceux lui aussi, Johan Tritz qui survole Cannes en ce moment à bord d'un Alpha Jet de la Patrouille de France, vous l'entendrez. Dans ce journal également, le premier procès d'un soldat russe pour crime de guerre en Ukraine. Il plaide coupable et risque la perpétuité. Et puis des records de chaleur aujourd'hui, notamment dans le sud-ouest. Reportage à Bordeaux alors que l'ONU lance l'alerte sur le changement climatique.
Alors justement, la tendance météo, c'est avec vous Marlène Duret. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence et bonsoir à tous. Moins chaud à l'ouest pour demain. Des passages orageux également attendus d'ici à demain soir. Et je vous propose de les localiser à la fin du journal. Europe 1.
Maverick en personne, alias Tom Cruise, il fait sensation en ce moment même au Festival de Cannes. Hélène.
Oui, c'est évidemment l'événement du jour. La superstar américaine présente le nouveau Top Gun hors compétition. Marie Jiquel, vous êtes en direct du Palais des Festivals et il est en bas des marches.
Oui, bonsoir Hélène, la superstar, 40 ans de carrière, signe en ce moment même des autographes. Il prend son temps, hein, Tom Cruise, acclamé par la foule. Hélène, je vous parie que certains fans vont tout faire pour récupérer ce tapis rouge foulé par Tom Cruise. Sa venue sur la croisette en hélicoptère, s'il vous plaît, a créé des émeutes et de nombreuses files d'attente. Beaucoup de monde en ce moment, on sent que Cannes et ses festivaliers vivent un grand moment.
Je suis contente voilà, de le voir en vrai. Puis il n'est plus venu depuis plus de 30 ans, donc c'est surtout ça en fait qui fait l'événement. Il a l'air sympathique et il a eu facile à nous approcher. C'est plus la sécurité qui mettait des limites que lui.
Ça fait bizarre de voir sa star en vrai, enfin, donc voilà. Très ému, voilà, ça c'est sûr. J'aime tous ses films, j'adore en fait ce qu'il représente.
Bon, il a changé certes, mais c'est un excellent acteur, ouais, puis c'est un bel homme.
Profusion d'amour pour Tom Cruise. On l'a d'ailleurs senti assez ému lors de sa masterclass cet après-midi. Durant ce rendez-vous, l'acteur a déclaré sa flamme au cinéma, affirmant son refus de collaborer avec des plateformes de streaming.
Je comprends le business. Je comprends le système des plateformes de streaming. Mais je fais des films pour le grand écran. Et c'est la beauté du cinéma. C'est de partager une expérience. Quelle que soit notre culture ou notre langue.
Et puis Tom Cruise, c'est aussi l'amour du risque. La star de Top Gun et de Mission Impossible est revenue sur sa passion pour les cascades. Il le confiait, enfant, il adorait monter aux arbres et se faire peur. Les cascades, justement, Hélène, elles arrivent bientôt dans le ciel avec la Patrouille de France déployée pour l'événement. On salue au passage notre reporter Johan Tritz, présent à bord. Vous l'avez compris, Cannes a sorti le grand jeu et place un autre spectacle dans quelques instants, la projection de Top Gun Maverick.
Merci Marie Jiquel, on l'a entendu en direct de Cannes.
Voilà, et justement, on va partir rejoindre la Patrouille de France. Hélène, l'un de nos reporters, est dans un Alpha Jet.
Oui, il vient de survoler le Palais des Festivals, le vénard Johan Tritz, qui se prend pour Tom Cruise, et qui vit une expérience exceptionnelle. Juste avant, il a pris une minute pour nous raconter les préparatifs.
Alors avant de monter dans l'Alpha Jet, hein, je m'apprête d'ailleurs à y aller, j'ai dû passer quand même pas mal d'étapes. Hein. J'ai d'abord enfilé vaillamment la tenue de combat. Alors c'est une combinaison intégrale couleur sable avec kit complet, lourdes chaussures, pantalon en tigé et surtout le casque aux couleurs de la Patrouille de France. Ça c'est la classe, mais il y a aussi beaucoup d'informations à assimiler, surtout au niveau du cockpit qui est très étroit d'ailleurs. Mais à l'intérieur, on a juste envie de toucher un petit peu au bouton.
Si vous touchez ici, bah, vous ne voyez pas, mais moi je le vois, le manche devant, il bouge. D'accord. Alors. Ça, c'est pour tirer, normalement, c'est le canon, hein. Comme dans Top Gun.
Ouais. Voilà. Mais la consigne principale, c'est ne toucher à rien pendant le vol et surtout, bien écouter le fonctionnement du siège éjectable. C'est lui qui peut vous sauver la vie. Et je peux vous dire que j'ai été un bon élève parce que des fois, ça fait peur.
Si jamais il y avait nécessité à sortir de l'avion, il y a une poignée en bas d'éjection que je vais vous montrer. Vous la prenez, vous tirez. Après, vous avez un parachute qui s'ouvre. L'objectif, hein, c'est pas de se poser en douceur, c'est d'être en vie.
Pour finir, mon pilote attitré m'a donné tout à l'heure les dernières consignes avant décollage. Je suis maintenant prêt à monter dans l'avion. Il y a d'ailleurs un petit peu de stress parce que je vous garantis que ce n'est pas facile d'être dans la peau de Tom Cruise.
Ah, ça, on veut bien le croire. Johan Tritz qui descendra de son Alpha Jet avec sa combinaison de pro vers 20h. Il aura tout juste le temps de se remettre de ses émotions et vous l'entendrez en direct dans le journal d'Alexandre Lemaire à 22h. Surtout, sachez que vous pourrez découvrir en salle Top Gun Maverick mercredi prochain, le 25 mai, avec Europe 1.
Allez, c'est la phrase qu'on a tous prononcée au moins une fois aujourd'hui, au moins une fois, et c'est voire bien plus, qu'est-ce qu'il fait chaud ?
Et pour cause, c'est la journée la plus chaude de la semaine. Plusieurs records de température pour un mois de mai ont été battus dans le sud-est, le centre-est et le sud-ouest. Plus de 33 degrés notamment à Albi ou Toulouse et même 35 degrés au Cap-Ferret et en Gironde. Grosse chaleur aussi du côté de Bordeaux, Stéphane Place.
Alors, pour vous donner une petite idée, Hélène, Laurence, cet après-midi, ici, le thermomètre a tutoyé les 32 degrés. Coup de chaud particulièrement difficile pour Kamal, par exemple, qui, avec ses collègues, construit un immeuble ici à Talence.
Physiquement, oui. Ah oui, on est épuisé, oui. On essaie de se mettre un peu à l'ombre, de boire. Là, on fait un plancher, on est en plein soleil.
Ce soir, qu'est-ce qui va être le meilleur là ?
Une très bonne douche, une petite bière, et voilà.
Et ces températures, c'est aussi un casse-tête pour Audrey dans sa petite boutique de plantes et de fleurs.
Ah ben ça fragilise toutes les fleurs, les plantes, on a intérêt de faire attention. Donc moi j'ai le climatiseur, je veux pas de chambre froide. Je travaille en circuit court, donc je le mets que quand il fait effectivement très chaud, parce qu'après il faut penser aussi, on consomme... la pollution, tout ce qu'il y a autour d'une climatisation.
C'est de la marchandise sensible à la chaleur.
Ah ben en une journée, vous pouvez tout jeter. Hein. C'est compliqué, il faut gérer.
Ombrelle, bob, casquette, c'est l'équipement indispensable pour protéger les petits dans leurs poussettes ou sur le vélo des parents. Les enfants sont aussi confrontés à la chaleur.
Bah oui, c'est vrai que les enfants dorment moins bien. Mais bon, après, on a une maison qui est assez fraîche, donc ça va.
J'ai une clim chez moi.
Et le sommeil n'est pas perturbé ?
Non, grâce à la clim.
Mais cette nuit, si l'on en croit les prévisions, eh bien, c'est plutôt l'orage qui risque de nous réveiller.
Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1. Des températures estivales qui donnent des envies de bain de mer, mais prudence, la préfecture de Gironde déconseille la baignade. Depuis dimanche, 3 personnes se sont noyées dans le département.
Et c'est aujourd'hui justement que l'ONU lance une sérieuse mise en garde sur le climat.
4 marqueurs clés du changement climatique ont en effet battu de nouveaux records l'an dernier, et notamment les températures, Louise Salé.
Alors oui, effectivement, hein, on a parfois des années plus chaudes que d'autres, mais là, ce qui est frappant, c'est que les 7 dernières années écoulées ont été les 7 les plus chaudes jamais enregistrées. Encore plus exceptionnel, ces records de température s'ajoutent à 3 autres records battus en 2021, les concentrations de gaz à effet de serre, le niveau de la mer et l'acidification des océans. Ça, c'est un phénomène physique. En fait, quand l'eau se réchauffe, eh bien, elle devient plus acide. Ces 3 marqueurs climatiques battent des records chaque année, puisque les hommes émettent toujours plus de CO2, réchauffant l'eau qui s'acidifie et faisant fondre les glaces. Le secrétaire de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce matin à l'abandon immédiat des énergies fossiles.
Le système énergétique mondial est en panne et nous rapproche de plus en plus d'une catastrophe environnementale. Nous devons mettre fin à la pollution par les combustibles fossiles et accélérer la transition vers les énergies renouvelables avant d'incinérer notre seule maison. Le temps presse.
Le réchauffement climatique a déjà dépassé la barre des 1 degré. Malgré tous les beaux discours sur l'urgence de sauver la planète, tous les marqueurs restent, eux, bloqués au rouge.
Louise Salé.
Elle sera entre autres chargée de la planification écologique. Elisabeth Borne réfléchit toujours à la composition de son futur gouvernement.
Oui, hier, la nouvelle première ministre a déjà longuement déjeuné puis dîné avec Emmanuel Macron. Aujourd'hui, elle poursuit ses consultations, Jacques Sorel.
Oui, Elisabeth Borne multiplie les rendez-vous. Elle a reçu ce matin à Matignon 2 anciens premiers ministres, Édouard Philippe et Bernard Cazeneuve. Elle s'est entretenue également avec les poids lourds de la majorité, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, le patron du Modem, François Bayrou, ainsi que Christophe Castaner, le président du groupe des députés La République En Marche, Stanislas Guérini, le délégué général du parti, et Elisabeth Borne a eu au téléphone le président du Sénat, le républicain Gérard Larcher. Officiellement, je cite Matignon, la première ministre poursuit le travail d'élaboration de l'équipe gouvernementale Alors rien ne filtre de ces échanges, mais l'on imagine aisément la teneur de ces conversations, car la composition du prochain gouvernement fait l'objet d'intenses tractations. Il s'agit pour Elisabeth Borne, au-delà des compétences des personnalités politiques sélectionnées, de trouver un équilibre, montrer dès maintenant qu'elle écoute, qu'elle prend en compte les remarques de chacun de ses interlocuteurs, démarche sincère ou pas. Pour son deuxième jour à Matignon, Elisabeth Borne a souhaité échanger avec les partenaires sociaux et les présidents des associations d'élus, sans oublier dans le même temps la campagne des législatives. Un de ses conseillers confirme qu'elle se rendra bien en fin de semaine dans sa circonscription du Calvados.
Et à propos des législatives, Jacques, Jérôme Peyrat, candidat de la majorité présidentielle en Dordogne, a finalement décidé de retirer sa candidature. En 2020, il avait été condamné pour violence conjugale envers son ex-compagne.
Une petite pause, Hélène, dans ce journal. Et puis, on va parler du tout premier procès pour crime de guerre en Ukraine. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve pour la suite du journal de 19h avec Hélène Zelani. Hélène, le tout premier procès pour crime de guerre en Ukraine s'est ouvert à Kiev aujourd'hui.
Oui, dans le box des accusés, un militaire russe de 21 ans accusé d'avoir tué un civil ukrainien désarmé. Il affirme avoir agi sur ordre d'un supérieur. Vous nous racontez l'audience, Thibault.
Oui, ça se passe dans une salle étroite. L'accusé, enfermé dans un box vitré, crâne rasé et vêtu d'un sweatshirt kaki et bleu à capuche, entouré de deux policiers armés, il répond aux questions du juge assis en face de lui.
Est-ce que vous comprenez ce dont vous êtes accusé ?
Oui.
Plaidez-vous coupable ?
Oui.
Complètement ? Vous ne refusez pas de témoigner ?
Non.
L'audience a ensuite été suspendue. Elle reprendra demain avec l'audition de témoins. Ce procès, le premier en la matière depuis le début de la guerre, est très symbolique en Ukraine. Vadim Chichimarin risque donc la prison à vie s'il est condamné pour crime de guerre et meurtre avec préméditation. Des termes qu'a contesté son avocat Viktor Ovzniakov.
Sa reconnaissance ne témoigne que de son sentiment intérieur. Il ne nie pas les faits, il ne nie pas le meurtre, mais j'ai certains doutes concernant la qualification de ses crimes. L'accusé ne connaissait pas tous les détails du code pénal ukrainien.
Et en effet, la notion même de crime de guerre répond à des standards internationaux très précis qui sont examinés, vérifiés de façon indépendante. La Cour pénale internationale a d'ailleurs annoncé dans les prochains jours le déploiement de 42 enquêteurs et experts dans le pays.
Thibault, la Russie qui annonce l'expulsion de dizaines de diplomates français, italiens et espagnols en représailles aux expulsions de diplomates russes. Pour la France, ce sont 34 diplomates qui devront quitter le pays d'ici 2 semaines. Et puis l'Union européenne propose une nouvelle aide à l'Ukraine allant jusqu'à 9 milliards d'euros sous forme de prêt. La mort de Françoise Rudetsky à 73 ans, elle-même victime d'un attentat en 1983. Elle avait mis sa vie au service des autres victimes du terrorisme en créant SOS Attentat.
Un mot de football, toujours des remous, Hélène, autour du joueur du PSG, Idrissa Gueye.
Oui, le milieu de terrain sénégalais aurait déclaré forfait samedi dernier à Montpellier pour ne pas avoir apporté le maillot arc-en-ciel, synonyme de lutte contre l'homophobie. Aujourd'hui, Cyril de la Morinerie, le Conseil national de l'éthique de la Fédération le somme de s'expliquer.
Oui, dans un courrier adressé à Idrissa Gueye, le Conseil national de l'éthique demande aux joueurs de clarifier sa situation. Votre absence est interprétée comme un refus de participer à une opération de sensibilisation contre les discriminations, écrit l'instance. Soit ces supputations sont infondées, nous vous invitons alors à accompagner votre réponse d'une photo de vous portant le maillot arc-en-ciel. Soit ces rumeurs sont exactes et nous vous demandons de prendre conscience de la très grave erreur commise. Fin de citation. En fonction de la réponse d'Idrissa Gueye, le Conseil national de l'éthique pourrait transmettre le dossier à la commission de discipline de la fédération. L'attitude du joueur est très critiquée, notamment par l'association Football Ensemble, présidée par Johan Lemaire, qui fut le premier joueur de foot en France à révéler son homosexualité.
Il avait déjà fait le coup l'année dernière, on s'y attendait un petit peu, mais au moins cette année, j'ai le sentiment que le PSG ne l'a pas couvert. On ne te demande pas d'être gay, on ne te demande pas de militer, c'est juste un match de foot et montrer exemple aux gamins.
En attendant, Idrissa Gueye a reçu le soutien du président du Sénégal, Macky Sall, qui estime que les convictions religieuses du joueur doivent être respectées. Le Sénégal qui punit d'un à 5 ans d'emprisonnement l'homosexualité.
Cyril de la Morinerie, ajoutons que la Fédération américaine de football ou soccer, si vous préférez, vient de conclure un accord historique. Il prévoit l'égalité de salaire femmes-hommes en sélection.
Allez, la météo avec Marlène Duret. Marlène, ça tourne à l'orage, notamment à l'ouest.
Oui, Laurence, alors ce soir, ça commence à arriver tout doucement là sur le Pays Basque, entre le Pays Basque et les Landes. Donc ce soir et jusqu'en première partie de nuit, des orages parfois forts, le vent qui va se renforcer aussi, qui va effectuer une rotation de manière assez brutale avec la mise en place de la galerne, ce vent régional que nos amis du sud-ouest connaissent bien. Et puis d'autres orages qui peuvent aussi circuler cette nuit depuis la Normandie et les Pays de la Loire vers les Hauts-de-France. Ces averses orageuses, on va aller les retrouver demain matin entre la région lilloise et les Ardennes. Et puis d'autres vont prendre le relais. De nouvelles averses orageuses passagères qui vont menacer les régions du Nord-Ouest. Bon, en excluant quand même l'Ouest de la Bretagne. Et puis elles vont circuler ensuite au nord de la Loire pour gagner dans l'après-midi le bassin parisien, puis le Grand Est en soirée, donc jeudi soir. Sur le reste du pays, eh bien, nous aurons droit demain à un ciel généralement changeant, variable, parfois chaotique, avec un risque d'ondées localement orageuses. Alors toujours quand même pas mal de soleil en allant vers la façade est du pays et le tiers sud. Le soleil qui se montrera plus tardivement dans le sud Aquitaine, en Gascogne, autour de la vallée de la Garonne, ainsi qu'en plaine du Roussillon. Et du côté des températures, ça reste toujours élevé pour la saison, mais elle baisse à l'ouest. Il fera 17 à 21 degrés entre la Bretagne, la Normandie et la Picardie, contre 32-33 toujours sous le soleil en Alsace, sur un axe Rhône-Saône et dans les vallées auvergnates. Et puis ailleurs, comptez 24 à 31 avec 25 à Paris. 25, ça reste quand même 5 degrés au-dessus des moyennes de saison.
C'est quand même très chaud. Merci beaucoup Marlène Durand. Merci Hélène Zelani. On se retrouve dans un instant pour les débats de Punchline. On parlera de ce nouveau gouvernement qui tarde. Et puis des investitures pour les législatives. A tout de suite.
18h-20h sur Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari.